avec le fait que les stats s'affinent de plus en plus avec l'exposition médiatique, etc., il faut pas minimiser aujourd'hui la place de l'image que t'as dans un jeu vidéo sur la carrière d'un joueur. Ouais. C'est-à-dire que pour lui, être nul dans un jeu, c'est aussi dire quelque part qu'il est nul dans la vie, en fait. Et s'il est nul
tu
dans la vie.
Tu penses vraiment qu'aujourd'hui, genre, les directeurs sportifs, ils se disent, alors, on va pas... je vais pas le prendre,
non,
je
pas, forcé...
de ça,
hein. Pas forcément non, sur FIFA. Le grand public. Alors, pas forcément sur FIFA, par contre, sur Football Manager.
Sur Football Manager, oui. Mmh.
Oui.
Vous êtes sur le point d'écouter le podcast 9m15 en partenariat avec la MAIF et vous avez bien fait. Petit rappel, puisque nous sommes en période de Coupe du Monde, s'il vous arrive de fêter un peu trop la victoire des Bleus, pas de panique, le prêt de volant occasionnel est couvert sans supplément dans le contrat d'assurance auto, parce que comme vous le savez, dans ce genre de cas, il est bien sûr interdit de prendre le volant.
Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast 9m15. Comme chaque semaine, la rédaction de Genside se réunit pour traiter des questions qui font du football une culture plutôt qu'un sport. Cette semaine, quelle est l'influence des jeux de foot, des jeux vidéo de foot sur le football actuel? C'est un podcast, ça fait longtemps qu'on a envie de le faire et je vois beaucoup de gens autour de cette table qui sont très excités à l'idée de débattre sur ce sujet. Yannick Mertiris qui est là comme chaque semaine maintenant.
C'est bah ouais, c'est ça, et c'est mon dernier podcast avant les vacances. Aïe, donc je serai pas là pendant 3 semaines, donc désolé tous les haters et peut-être un fan, genre ma mère, c'est fini pour 3 semaines.
Mais rassurez-vous, le podcast 9m15 ne s'arrête pas.
Ah bah bien sûr,
si tu pars en vacances.
Évidemment, au contraire, il sera bien meilleur même sans moi.
Comme on parle jeux vidéo aujourd'hui, évidemment, on pouvait pas se priver d'avoir Fabien Baquet avec nous, big boss du Genside Esport Club. Salut Fabien.
Hello, merci pour l'invitation.
Avec plaisir. Et notre invité de cette semaine, Florian Velter, journaliste chez Canard PC et auteur d'un hors-série sur la question.
Voilà.
Qui est sorti quand d'ailleurs?
Qui est sorti début juin.
Qui est sorti début juin.
Et qui est encore en kiosque jusqu'à fin juillet. Bonjour.
Bienvenue à toi dans ce magnifique studio 9m15. Qui est de plus en plus petit mais qui marche toujours aussi bien. On a beaucoup de choses on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, l'influence que FIFA a eue sur les fans de foot, les fans de jeux vidéo, l'influence que ça peut avoir sur les joueurs, sur les clubs, le retentissement que ça peut avoir dans la sphère médiatique du football. Je pense qu'on va commencer par parler de l'influence que ça a sur les fans de foot ou sur les fans de jeux vidéo. Florian, toi t'as l'impression, d'abord on va faire un peu d'histoire, à partir de quand ça a commencé tout ça? La simulation de foot, à partir de quand c'est rentré dans les mœurs généralement?
Alors, ça dépend si on parle de jeu de foot ou de simulation de foot.
Oui, c'est vrai.
C'est très intéressant.
C'est-à-dire que dans l'idée de simulation, il y a l'idée de réalisme et donc de vouloir simuler une certaine réalité. Ce point-là, cette volonté de simulation, elle arrive au détour des années 90, on va dire. Mmh. Et elle arrive par la petite porte, elle arrive par que quelques représentants. Parmi les premiers, on a un certain Kikoff, que les plus âgés connaîtront probablement par cœur. Puis
il m'a regardé en disant ça, c'est pas très
cool. Pas du tout. C'est que juste t'es le plus simple. J'ai les gars, je peux pas trop les voir.
T'as visé juste.
Voilà. Et donc Kikoff est derrière Sensible Soccer, donc qui était son héritier, on va dire au moins spirituel. La volonté de réalisme la plus poussée, que ce soit après visuellement au niveau des contrôles, etc., ça vient évidemment avec la 3D, avec ce moment où le jeu de foot commence à se calquer sur la grammaire de la télé.
Voilà, c'est
donc
ça qui est
intéressant. Avec la caméra de côté, avec l'affichage du score, avec les commentateurs, avec tout ça, c'est des choses que le foot va absorber de la télé. Et à partir de là, ça va être vraiment l'idée, ça va être de se rapprocher au plus près du vrai foot, ou en tout cas d'une certaine vision du vrai foot. Et c'est là que les jeux, c'est à peu près à ce moment-là que ce qu'on appelle alors un petit peu les jeux d'arcade, les jeux fun, les jeux un petit peu plus légers, vont commencer doucement à disparaître. Jusqu'à complètement s'éteindre.
Donc, c'est quoi le premier jeu à peu près que toi tu jugerais comme première simulation de foot à peu près correct?
Je pense que les premières simulations c'est vraiment Kikoff. Parce
Kikoff,
que t'as, ouais.
C'est pas un FIFA.
C'est pas un FIFA.
Ou un PES ou un Winning Eleven.
Je pense pas parce que Kikoff, il y a ce pilier de Kikoff et qui est déjà super important dans ce qui va venir ensuite. C'est séparer le joueur et le ballon et dire qu'en fait le ballon ne colle plus au pied du joueur. Et que, d'ailleurs, c'est à mon sens proprement injouable aujourd'hui, hein. Mais l'idée, en tout cas le cœur du truc, est hyper intéressant. Et d'ailleurs, c'est ce qui est hyper intéressant, c'est que ça a été repris quasiment 25 ans après dans FIFA 13. Un des apports principaux de FIFA 13, c'était ce qu'ils appelaient le first touch, c'est-à-dire la notion que la balle ne n'allait pas coller au pied du joueur de la même façon, suivant la force de la passe, suivant la technique du joueur, suivant l'angle avec lequel il allait réceptionner. Finalement, ça, on l'a retrouvé. C'est un vieil héritage. Donc, en fait, ouais, j'aurais collé la première simu à cette époque-là. Donc, 89-90 à peu près.
Quand on parle de simulation, tu disais on se rapproche de la réalité. Finalement, est-ce qu'on se rapproche vraiment de la réalité de ce que c'est le foot ? Alors là, t'en parlais sur un petit aspect technique d'un contrôle de balle, de la position du ballon par rapport au pied, évidemment. Mais finalement, on se rapproche plutôt de la réalité, de l'expérience de spectateur qu'on a en tant que fan de foot.
Exactement.
Est-ce que ça veut dire que ces jeux-là sont basés pour attirer les fans de foot vers le jeu vidéo, ou l'inverse ?
Oui, avant tout. Enfin,
c'est ça. L'idée, oui, c'est de capter d'abord les fans de foot pour les amener vers le jeu vidéo.
L'inverse, ça a pu être le cas à un moment, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, on a des gens, on a beaucoup, je pense que vous en avez parmi vos potes, etc., qui ne jouent peut-être qu'à FIFA toute l'année, parce que c'est pas des joueurs en fait, c'est des gens qui, c'est des amoureux de foot et qui en fait.
Ils jouent à FIFA. Voilà. Moi, c'est ça. Clairement, je joue à FIFA et à Football Manager, tu vois, c'est les deux trucs.
Bah oui,
mais
voilà,
je suis pas un gamer dans l'âme, etc.
FIFA fait partie du triptyque tous les ans, Call of Duty, FIFA, Assassin's Creed.
Voilà, exactement.
Ça fait partie de ça. Hein.
C'est ça, Fabien, pour toi, chez les joueurs, du coup, FIFA, c'est aussi rentré dans les classiques qu'on va acheter tous les ans, même si on n'est pas principalement, j'ai envie de dire, un fan de foot.
Ouais, et puis c'est aussi social, parce que c'est une cible. C'est-à-dire que tu veux jouer à ton FIFA avec tes potes le week-end, et donc faut que tu joues à ton FIFA. Et puis des fois, moi j'ai plein de potes autour de moi qui l'achètent pas forcément, mais qui savent qu'en étant chez son pote, ils se font le combo Ligue 1, Ligue des Champions, et ils savent qu'à la mi-temps ils vont se faire un match de FIFA, et ils y jouent comme ça.
T'as d'ailleurs combien de deuxième mi-temps j'ai raté à cause du fameux match de FIFA de la mi-temps? J'ai jamais vu un coup d'envoi de
l'audience. Les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps doivent être en chute libre.
La strat, de mettre 4 minutes la mi-temps, je le dis.
Sympa, petit tips, astuce, petit cheat code bien sympa.
C'est vrai que c'est, pardon, excuse-moi.
Non, mais vas-y. Le vrai truc, c'est que je te rejoins, Fabien, c'est qu'aujourd'hui FIFA, pour des, pas des, j'ai pas envie de dire des non-gamers, mais des gamers, on va dire grand public, c'est ce qui fédère en fait une espèce de communauté. C'est que tu vas jouer à FIFA comme tu peux jouer à Mario Kart un petit peu avant, j'ai envie de dire, où tu te fais une partie, t'es là, t'es entre potes, et c'est ça qui fédère vachement, qui fait que c'est un outil de socialisation important. Et quand bien même, si tu ne joues pas dans un groupe de potes, tu peux être un petit peu exclu de certaines soirées, de certains trucs, parce que
on y reviendra après.
Mais tu vois, c'est ça. Donc, je pense que c'est un vrai outil de socialisation aussi. Enfin, tu vois, quand t'as l'image du geek qui est coincé dans sa chambre, absolument pas. Mm-hmm. Absolument pas. C'est tout l'inverse sur ce type de jeu-là, en tout cas.
Mais d'ailleurs, vas-y, pardon.
Je coupe la parole.
Je vois pas parler nos invités aussi.
Je me suis mis dans l'angle mort.
Ouais, j'arrive pas à dormir.
Non, mais du coup, je me disais que FIFA, ça avait dû aussi apporter vraiment quelque chose pour le jeu multijoueur, que ça soit sur la console de salon, enfin, même d'ailleurs sur la console de salon, FIFA, ça a dû un peu changer la donne à ce niveau-là, non ?
Bah, ça suit l'évolution des jeux vidéo aujourd'hui. En fait, de toute façon, le multijoueur, comme on l'entendait il y a 10 ans, 15 ans encore plus, il y a eu le multijoueur local.
Le fameux multitap, pour ceux qui. Moi, je l'avais, le truc PlayStation en boomerang.
En boomerang.
T'as sûrement dû voir ça dans un musée, Fabien, toi, mais moi, je l'avais.
J'ai connu. mais ouais, ça a suivi le multijoueur local. C'était typiquement le jeu qu'on jouait, on jouait à deux, ça faisait on parlait de Mario Kart ou autre. Maintenant il y a toujours ce truc là mais c'est vrai qu'on a plus tendance à s'affronter en ligne et avoir les modes de jeu, et je pense qu'on en reviendra tout à l'heure aussi, mais c'est la notion de classement aujourd'hui sur le multijoueur. Ça suit l'évolution du jeu vidéo, qui est que aujourd'hui on se pose plus la question. On parlait d'écran splitté à l'époque, vous vous rappelez? Alors pas sur FIFA mais sur d'autres jeux, et il y avait la notion d'écran splitté, où aujourd'hui c'est plus le cas. C'est quoi, t'es division 2, division 1, on peut s'affronter, t'as quel joueur, c'est quoi ton équipe, et c'est plutôt ça.
FIFA a repris le dessus à un moment où les moyens techniques des consoles ont permis un multijoueur complètement débridé, en fait. C'est-à-dire que FIFA a repris le dessus à peu près à FIFA 09, a repris le dessus en termes de vente, en termes de popularité, les deux. Et c'est le moment où on est sur PS3 et sur Xbox 360, qui sont des consoles, ça y est, enfin complètement connectées, où tu peux, du coup, avec des débits, on commence en France, en tout cas, c'est le moment où on commence à avoir des ADSL qui permettent de jouer sans aucun problème, etc. Donc il est tombé à ce moment-là. Et pour revenir à ce que disait Yannick tout à l'heure, c'est-à-dire sur l'aspect social, c'est hyper important parce que, d'un point de vue business, à mon sens, en tout cas, c'est ce qui fait, en ce moment, notamment, qu'une série comme PES, qui à mon sens, je sais que c'est partagé par certains collègues, mais on n'est pas forcément d'accord, mais qui à mon sens est bien meilleur que FIFA depuis quelques années.
C'est lâché.
Voilà, non mais,
la bombe est lâchée.
Ça n'engage que moi, encore une fois, mais ça l'empêche de revenir, parce que globalement, on a cette notion de, ouais, mais moi je vais pas prendre PES, tous mes potes jouent à FIFA. Et ça,
ce qui est très très fort de la part d'EA à 2008, en fait, tu parles, c'est FIFA 2008, mais les bases, et ensuite il y a FIFA 2009 qui fait vraiment le passage de témoin, mais ce qui est complètement dingue, parce que il y avait eu d'abord FIFA 96, la première édition.
Alors c'est FIFA Soccer, je crois qu'il avait même pas de numéro, mais ça correspond.
Et ensuite il y a Zebula, il y a ISS, Pro Evolution, on a tous connu ça, et puis d'un coup FIFA reprend le truc et là ça paraît incroyable et invraisemblable.
C'est exactement ce que tu dis, c'est que moi j'étais donc du coup ISS, enfin Winning Eleven, ISS, PES, après etc, parce que c'était le meilleur jeu que tu jouais avec tes potes etc machin, et puis le passage à FIFA, moi j'ai mis plus longtemps à le faire parce que je continue à jouer, il y a aussi cette un peu fidélité, c'est un peu totem aussi, parce que c'est tu te reconnais dans une espèce de team en disant moi je suis plutôt à un moment il y avait cette vraie scission. Et pour revenir à ce que vous étiez en train de dire, c'est que la technologie, donc la surpuissance d'EA, des consoles, du jeu en ligne, des mises à jour quotidiennes, des licences aussi, enfin pour ceux qui ont joué à PES, qui ont dû se faire tous les fichiers options en remettant les petits fagnons, les changeant les noms de joueurs etc, qui aujourd'hui paraît totalement
ça faisait partie
absurde.
Du plaisir un peu, je
et ça faisait complètement partie de ça, et ce qui fait qu'aujourd'hui c'est vraiment cette notion de clan en fait, et FIFA aujourd'hui a réussi à créer tout ça, alors que par exemple le jeu en ligne, je trouve ça très cool, mais je regrette parfois, moi en tant que vieux de la vieille, de dire j'ai envie de jouer en local avec mon pote, parce que pour moi jouer à un jeu de foot dans ce lien social là, c'est surtout discuter avec ton pote à côté en fait. C'est pas genre quand tu joues à FIFA avec ton pote, tu parles rarement.
C'est encore
FIFA,
c'est encore beaucoup joué comme ça globalement. Ouais. C'est encore, tu vois, tu vous le disais tout à l'heure à la mi-temps machin, globalement je pense que c'est encore joué comme ça. La partie en ligne, il y a une génération qui vit ses relations de jeux vidéo. Quand je dis de ses relations de jeux vidéo, c'est-à-dire il y a beaucoup de Discord, tout ça, etc. machin. Il y a une génération qui n'a aucun problème à vivre avec ses parties avec ses potes à distance. Voilà. Nous, c'est peut-être pas la nôtre. Mais FIFA est encore joué beaucoup en local. Le en ligne reste, je vais rejoindre ce qu'ils ont fait bien tout à l'heure, c'est-à-dire le en ligne, ça reste beaucoup la compète. Ouais. Pour le moment, c'est les matchs entre amis, ça reste toujours une option qui est présente. Il n'y a pas de problème. Notamment, ce qui est intéressant depuis quelques années, c'est le match en coop. Mais globalement, le jeu en ligne, ça
reste. C'est très drôle, en plus, le match en coop. Moi, je sais que j'ai un de mes meilleurs amis qui est père de famille, comme moi, du coup. Et je sais que parfois, on joue en coop tous les deux en ligne, parce que c'est le moment où on arrive un peu à se capter. Mais tu gères ça entre deux couches, entre deux cris, etc. Donc tu mets pause, etc. Je pense que ça doit donner des matchs un peu étranges pour les adversaires en face. Voir des mecs.
Moi, je pense que c'est pas étrange qu'ils se disent.
Hein. Non, ils sont nuls. Ouais, mais on gagne quand même. On gagne quand même. Mais quand tu vois un mec, genre, qui garde la balle tout seul pendant. Ouais. Qui fait des dribbles, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est juste que ton pote en fait est parti pisser ou est en train de gérer une crise de larmes.
Je suis sûr que tu joues en alternatif, c'est sûr.
Je joue en alternatif, bien sûr.
À cet âge-là, on joue à deux touches.
Donc Jérémy, tu vois, je t'ai salué.
Ouais. Tout ça pour dire que beaucoup de monde joue à FIFA, tous les fans de foot quasiment jouent à FIFA, donc ça a forcément une influence sur l'expérience de fan. Aujourd'hui, à quoi ça sert aussi FIFA? Est-ce que ça sert pas à développer la culture foot chez les jeunes qui vont se lancer dans le jeu? Est-ce qu'on va pas découvrir des joueurs, des championnats qu'on n'aurait pas forcément regardé à la télé si on n'a pas les 14 000 abonnements nécessaires pour suivre l'intégralité du foot? Est-ce que ça peut avoir cette utilité-là?
Oui et non, il y a deux parties dans ta question. Ouais. La deuxième, oui. C'est une porte d'entrée comme une autre, notamment pour, comme tu disais, pour les plus jeunes. Mmh. Après tout, l'une des grandes forces d'Electronic Arts, c'est sa puissance commerciale et donc cette exhaustivité en termes de
licence,
en termes de licence, qui est assez incomparable, notamment parce que voilà, ils ont des partenariats commerciaux avec, par exemple, avec la Première Ligue. Si vous faites attention, les arbitres de Première Ligue sont sponsorisés par EA Sports. Donc voilà, ils ont ce genre de puissance commerciale qui fait qu'ils ont une exhaustivité au niveau des licences. Et en effet, ça peut être intéressant de découvrir pour un voilà, je sais pas, un petit jeune supporter qui est, que ce soit pour Paris, pour Marseille, pour n'importe qui joue avec son équipe, qui a pas forcément, quand il regarde les matchs, c'est pas forcément qui a sur le banc, mais quand il joue à FIFA, il est obligé de faire des remplacements, il dit ah, il y a un tel, il y a machin, un truc. Bien sûr, ça peut être une porte d'entrée comme une autre. Pour appréhender en tout cas la culture foot, etc., dans son ensemble, je pense qu'on va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les jeux vidéo, enfin. En tout cas FIFA, on va parler de FIFA, mais pour les jeux vidéo, donne un angle de vision sur le foot, un angle seulement. Mmh. Bah, on est loin de tout, d'avoir le prisme complet. le jeu d'Electronic Arts a notamment, en tout cas pour moi, dans la particularité sur les dernières années, de mettre un énorme accent sur le spectacle et sur cette espèce de foot champagne, de foot de célébration, beaucoup de, ils le font très bien, mais beaucoup de
c'est très show off, je trouve.
C'est très show off, c'est très sûr. Mais parce que clairement aujourd'hui il y a une, et c'est notamment la fracture que je soulignais dans le mag entre PES et FIFA, il y a vraiment aujourd'hui à mon sens il y a le fond et la forme entre les deux. FIFA a survenir en 2009 etc. en travaillant le fond, en proposant vraiment des gros apports de gameplay etc. machin. Aujourd'hui ils sont établis, c'est un rouleau compresseur, les ventes elles ne baissent pas, c'est un des plus gros phénomènes commerciaux du monde. Ça ne les intéresse plus, mais ils ont un petit peu de mal à se renouveler au niveau du fond sur le terrain, etc. Et ils ont mis l'accent sur quoi ? Sur, comme disait Yannick, sur le show-off, ouais. Sur les ambiances.
C'est un peu comme
sur...
Apple. C'est un peu comme Apple, ils n'ont pas besoin de se réinventer parce que ça marche tout le temps.
Ils n'ont pas besoin de se réinventer. Après, bon, la chute serait quand même beaucoup plus difficile à appréhender, mais c'est des cycles. Hein. PES, personne ne pensait qu'ils allaient chuter. Hein.
Mais pour revenir à ce que tu parlais, là, cette notion d'éducation, pour moi, le jeu de foot, le jeu vidéo de foot, qu'il soit simulation ou même Football Manager, parce que pour moi c'est lié aussi, c'est un outil d'éducation supplémentaire pour les gens au global.
Football Manager
souvent
beaucoup plus.
Souvent
Football
les
Manager
jeunes,
beaucoup plus.
Parce que tu vas apprendre les noms de joueurs, tu vas apprendre beaucoup de choses, les règles, notamment les règles de les règles du foot, les règles d'économie pour certains trucs dans Football Manager notamment. Donc moi je le vois vraiment comme un outil d'éducation supplémentaire qui va aider à générer chez toi du savoir supplémentaire, vraiment. Mais évidemment c'est pas tout, parce que la culture du foot ne se transmet pas via les jeux vidéo, elle se transmet par bien d'autres biais.
Après ça donne simplement, en tout cas pour FIFA, ça donne un vrai prisme. Le souci que tu peux avoir de FIFA, c'est que suivant la vision de l'année de la part d'IS, c'est-à-dire mettre plus en avant que ça soit la défense, la vitesse, enfin ce qu'il y a, c'est qu'il y a des joueurs, donc là on en parlait de la vision des fans sur la culture, il y a des joueurs qui sont vus par une certaine cible, par peut-être des plus jeunes ou moins jeunes et moins connaisseurs de foot, et qui vont dire « Ah mais ce joueur en fait il est naze », alors qu'en fait il continue à remporter des titres. On peut penser à Iniesta, qui est dans le jeu pas forcément l'un des meilleurs joueurs et qu'on voudrait avoir, et qui a juste régné sur la planète football pendant des années avec
Barcelone.
Iniesta
dans mon équipe foot, je le garde jamais. Par contre je garde des mecs hyper rapides, genre Willian, Lozano, etc.
Donc, en fait,
parce qu'ils sont juste très rapides.
Hier est capable, via une édition FIFA ou via FIFA globalement, à donner une vision du football, et c'est là où on parle d'une vision show-off ou autre. C'est que il donne une vision, et ça c'est aussi lié derrière, c'est le fait qu'ils sortent une édition tous les ans, donc ils sont obligés de se, entre guillemets, renouveler, ce qui réussissent à plus ou moins. Alors qu'on a FIFA 13, où a été une édition vraiment réussie, et après il faut se renouveler sans cesse. FIFA 15, FIFA 16, et puis depuis quelques années c'est un peu décrié, parce que tous les ans, à un moment, ils sont obligés de, c'est ce qu'on disait, ils ont un jouet, ils sont obligés de le déconstruire tous les ans pour le reconstruire sous une forme différente. Et après ça prend pas, ça donne une autre vision.
Le fait est que ça, il faut bien savoir que ça biaise en fait le regard que tu vas avoir.
Ouais,
mais tous les jeux, hein, là je parle au sens large. Tout à l'heure tu disais Football Manager, en effet je pense que Football Manager c'est peut-être le jeu le plus intéressant en termes de
base de données, finalement.
Ouais, et puis juste de ce que ça embrasse du foot en fait. Mm-hmm. C'est tellement large. Sports Interactive c'est toujours targué d'essayer d'avoir un regard complet sur le monde du foot, et pas simplement que sur le terrain en fait. Donc il y a l'en dehors, il y a la gestion d'un vestiaire, il y a des contraintes économiques telles que le Brexit, etc. Ils sont vraiment allés très loin. Cette année il y a eu la possibilité d'un coming out d'un joueur, ce qui représente à quel point c'est fort dans le monde du foot.
On n'a pas idée, hein, pour ceux qui ne jouent pas, on n'a pas idée du nombre de détails qu'il y a dans ce jeu, qui fait qu'aujourd'hui, moi j'ai beaucoup joué, je joue en version simplifiée, ce qui est déjà beaucoup, il y a beaucoup de choses, parce que ça va dans un... c'est trop, il y en a même trop, tellement... je pense que si tu veux jouer complètement
beaucoup
jeu,
de choses que tu peux déléguer dans le jeu, en fait, tu peux choisir ce que tu peux choisir, enfin, genre par exemple, si t'as pas envie de faire les conférences de presse, tu peux les filer à ton adjoint, etc. Par contre, c'est vrai que c'est très foisonnant, ça peut faire très peur au début, etc. Mais ça n'empêche que... là, comme dans FIFA, on tombe sur quelque chose de biaisé, c'est-à-dire que Football Manager, c'est un peu la blague depuis des années, mais le transfert Football Manager, c'est, tu sais, cette espèce de transfert improbable où le joueur part à 95 millions d'euros. Bon, même maintenant 95 millions d'euros c'est crédible,
c'est
donc
plus rien, c'est normal,
mais voilà, il y a quelques, je suis encore en 2008, mais ces espèces de transferts complètement improbables d'un truc à l'autre, etc. Chez un public qui n'est pas forcément éduqué, il y a une crédibilité par rapport à ça. Genre, ils vont se dire, ah, mais ouais, mais pourquoi pas, pourquoi on n'achète pas un tel, pourquoi on claque pas. Il n'y a pas forcément de. de vrai, c'est une introduction à l'économie du foot. Il manque énormément de choses. Dans FIFA, c'est pareil. Je pense que Fabien l'a très bien expliqué. C'est biaisé, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, FIFA, là, de plus en plus, donne l'accent sur le spectacle. Donc, l'avantage aux attaquants, c'est très très difficile de défendre dans FIFA sur les deux dernières éditions. Voilà. Parce qu'ils ne veulent pas.
La manette s'en souvient.
Parce que voilà, parce qu'ils ne veulent, ils n'ont pas très envie, en fait. Ce qu'ils veulent, c'est des buts, etc. Globalement, ça donne exactement ce qu'il a dit, c'est-à-dire. Des joueurs hyper rapides, les gamins ils les regardent dans la vraie vie, ils disent mais arrête il est trop fort, mais lui il est trop fort dans FIFA, c'est un ouf et tout. Et ce commentaire là, je l'ai entendu
partout,
mais des dizaines de fois.
Mais je le fais aussi, j'ai l'impression de connaître le foot, mais je le fais aussi.
Mais c'est en fait,
par exemple, il y a des joueurs,
en
genre,
partie, c'est
que tu prends, c'est que tu prends parce que, et au début j'ai eu du mal par exemple pour venir au mode phare de FIFA qui est fut où tu choisis en fonction de tes cartes, etc. Et au début je faisais une équipe cohérente de spécialistes de foot. Et en fait, tu te rends compte que non. Et dans ton équipe, bah, tu vas mettre des mecs comme Alessandrini, comme Mulian ou machin, enfin des mecs qui jouent en MLS. Et tu le mets dans ton équipe.
Pas Alessandrini.
Pourquoi ? Parce qu'Alessandrini est très. Par exemple,
le point Alessandrini, je le voyais pas.
Écoute, pourquoi ? Parce qu'il est extrêmement rapide et il a une excellente frappe. Et il peut tirer des deux pieds.
Ouais, c'est
et
des
donc,
trucs.
Techniquement, dans le jeu, je pense que tu vois, genre dans le script de FIFA, bah, ce gars-là, il est top.
Et à l'opposé, les jeux de foot. Alors, PES et FIFA un petit peu différemment, mais les jeux de foot ont du mal à retranscrire encore des facettes du jeu qui sont hyper importantes. Typiquement, N'Golo Kanté, voilà. Les milieux défensifs dans les jeux de foot, à l'heure actuelle, c'est un des points faibles des jeux de foot. Faire comprendre à une machine du code à quel point un milieu défensif est important, c'est lui faire comprendre un volume de jeu, c'est lui faire comprendre un sens du placement, c'est lui faire comprendre le fait d'être une intelligence, en fait. Une intelligence, c'est très difficile à coder, en fait, en 1 et en 0. C'est extrêmement difficile. De la même manière que pendant des années, ça commence à venir. Mais les jeux de foot ont eu énormément de mal à faire des attaquants en pivot. C'était excessif. Et c'est encore un petit peu difficile, mais ça commence à venir.
Désolé, Giroud.
Bah, Giroud, Lukaku, même si Lukaku a un profil un petit peu différent, mais en effet.
Mandzukic, Lewandowski, ça n'a jamais été tes attaquants phares dans FIFA.
C'était quoi, même Harry Kane, hein, c'est compliqué.
Ouais, ouais,
de
c'était quoi
avec.
C'était des mecs que tu utilisais, tu mettais des centres. Ouais, voilà. C'est tout. Alors que c'est. Un dixième de leur jeu. Donc, et tu vas avoir, voilà, typiquement des trucs genre, ouais, mais ces mecs-là, il sert à rien, mais il est nul, mais
il
machin.
Il est lent, et machin.
Voilà. Et c'est pas ça, en fait, c'est pas ça. C'est juste que dans le jeu, t'arrives pas à le retranscrire et t'arrives pas à le montrer. Donc, oui, c'est un regard sur le foot, un regard comme un autre, un regard important, surtout, c'est une porte d'entrée, mais malheureusement, notamment avec le fait que FIFA commence à se vendre par container entier, ça devient un regard un petit peu exclusif, et pour certains en tout cas. Et c'est parfois un petit peu.
En fait, ce qu'il y a, c'est que les jeux sont devenus des médias. Et comme tout média, ça doit être viral. Et c'est pour ça que l'accent est mis sur la belle action. Et ça se retrouve sur plein d'autres jeux aujourd'hui différents du foot. Hein. On peut penser au phénomène Fortnite. Il faut que ça soit viral, il faut que tu aies l'action, il faut que tu sois capable de la balancer très rapidement et qu'on se dise waouh. Et donc c'est pour ça que tu mets l'accent sur l'attaque et que c'est forcément biaisé. Et parce que ça devient plus qu'un jeu, ça devient un média. Et en fait, ce truc-là, je pense que la bascule, elle se fait dès l'instant où tu récupères les licences et t'en fais quelque chose de réaliste. En fait, est-ce que le réalisme d'un foot, il doit se retrouver dans le fait d'avoir les noms des joueurs, le nom des ligues, ou alors dans le réalisme sur le terrain lui-même? Et on se souvient tout de Roberto Larcos on en parlait de faire les emblèmes, refaire les maillots. À ce moment-là, on se posait pas la question. Certes, il n'y avait pas la viralité, il n'y avait pas le social media comme il est aujourd'hui. Mais en fait, tu te posais juste la question de est-ce que le jeu de foot, c'est un jeu de foot, et tu te posais pas la question de est-ce que ça reproduit ce que je vois en Ligue des Champions, mais plutôt est-ce que ça reproduit ce que je vais faire moi quand je vais essayer de jouer avec mes potes, et t'es plutôt sur le réalisme du football pur plutôt que le réalisme du monde du football. Et aujourd'hui, on voit les grandes innovations de FIFA, ça va être de mettre un mode aventure pour voir en fait ce que c'est le parcours d'un padawan footballeur professionnel. Est-ce que je fais le bon choix avec cet entraîneur? Est-ce que je choisis le bon sponsor? Est-ce que je choisis le bon club? Alors que c'est le foot, le vrai foot, c'est pas ça. Le foot, c'est ce que je sais faire des passes et aller marquer un but.
Mais il y a une vraie différence parce que t'as l'impression qu'il rajoute de la gamification. Dans un jeu, bah, c'est naturel, étymologiquement c'est naturel, c'est normal de mettre plus de jeux dans un jeu, mais ils ont aussi cette volonté d'être de plus en plus proche de la réalité et donc d'être de plus en plus chiant. Un match de foot, parfois ça peut être chiant. Tu parlais du rôle du milieu défensif, franchement c'est chiant de jouer 6 quand tu connais pas bien le foot. Et je pense que ces trucs là, tu parlais aussi du sponsoring de la première ligue. Aujourd'hui, quand tu vois la frontière qui n'existe quasiment plus entre le réel et l'irréel, quand je vois des joueurs de première ligue, moi, posés avec leur carte fut dans la vraie vie, genre le mec accepte que c'est une carte, accepte qu'il a une note, Et moi, ça, c'est après, c'est
qui lui a été donné par pas du tout des professionnels du sport.
C'est ça. C'est ça. Et moi, ce qui me gave entre guillemets un petit peu, mais je peux l'entendre aussi. Mais c'est que dans un jeu, c'est normal d'avoir des skills. C'est l'essence même du jeu, d'avoir des notes, d'avoir des skills, etc. Mais si tu veux vraiment te pencher vers un jeu de plus en plus réaliste, et ben si t'es, mais ça, personne le fera parce que ça cassera tout le truc. Mais enlève tes notes. Enlève les notes des joueurs et joue uniquement avec des joueurs et avec le sentiment que tu as du joueur. Là, je trouve que ça serait une énorme révolution qui pourrait péter le jeu, je suis d'accord, parce que les joueurs ont besoin de ces repères de chiffres. Mais si tu joues sans notes, tu
sais que c'est juste que le jeu va plus loin. On est plus en, comme il y a 10 ans. Avant PES, c'était une flèche.
Ah, mais t'avais
des stats.
T'avais des stats, mais qui n'étaient pas aussi développés.
Les stats, alors. Je vais faire part de ce que je me souviens d'avoir eu. Ça serait très difficile de faire sans stats. Parce que.
Pour moi, c'est impossible d'un point de vue jeu, en fait.
Bah, c'est ça. C'est qu'on reste sur ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'un jeu, avant tout, c'est du code. Du code, c'est des chiffres. Et t'as pas d'autre option, en fait.
Faut pas les afficher, sinon.
Alors, moi, encore une fois, à mon sens, c'est ça n'engage que moi. En fait, il faut plus de stats, en fait. Il faut les affiner. C'est-à-dire que pour contrer une stat, pour qu'elle ait moins d'importance.
Tu la nuances.
Ok. Et c'est ce qui s'est passé au fur et à mesure. C'est-à-dire
en fait,
que
au lieu d'avoir 30 notes, là, il en faudrait 160, en fait.
Probablement.
Pas forcément.
Même plus.
Bah, finalement, ça, c'est là. Tu veux retranscrire quelque chose d'humain. Ouais. T'es sur quelque chose de très complexe. Il faut quelque chose de très complexe. Je sais pas si on arrivera à cette. Ce qui est sûr, c'est que par exemple, dans Football Manager, tu ne vois pas toutes les stats. Celles que tu as.
Le fameux potentiel.
T'as les notes cachées. Ça prouve que pour eux, ça, c'est pas suffisant, en fait, pour représenter ce que le joueur peut devenir, ce qu'il va faire sur le terrain, etc. Donc je pense que les stats, tu peux pas t'en défaire. Tout dépend de comment tu les nuances, en effet, comment tu les contrebalances, et aussi évidemment quelle importance tu leur donnes. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur l'attaque, sur la défense, sur. Pour revenir par contre à ce que disait Fab, c'est hyper intéressant, c'est que la réalité pour FIFA, je suis persuadé, pour avoir parlé à des producteurs, etc., qui bossent sur la série, eux sont persuadés que il y a une autre forme de réalisme. C'est ce que tu disais, c'est que eux, leur réalisme, c'est que les stades chantent les bonnes chansons, que l'ambiance corresponde, qu'il y ait les logos sur les maillots, c'est une forme de réalisme.
Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec eux. Ouais, j'avoue qu'on parlait du cœur du jeu en tant qu'amateur de football, genre technicien, mais par contre, sur tout le reste, c'est un réalisme clair et net. L'aventure, c'est une sorte de réalisme, les chants.
Alors c'est hyper mal écrit, mais.
C'est mal écrit, c'est mais horrible. C'est pas bien réalisé,
c'est une catastrophe,
mais ils essayent de.
Il y a une tentative.
Voilà. Comme peut le faire 2K, enfin NBA 2K ouais. sur les systèmes de carrière, etc. Mais
ça, ce que ça dit, c'est ce que tu disais tout à l'heure à la base, c'était. C'est pas tant une expérience, enfin en tout cas pour FIFA, encore une fois, il y a une vraie différenciation entre FIFA et PES, moi je trouve, sur le terrain et la forme, parce que PES n'a plus tout ça, donc
ils sont remis
sur le terrain, et moi je trouve que c'est un vrai plaisir. Mais oui, c'est une expérience finalement de spectateur, plus que de voilà. Une bonne partie des gens attend, c'est la Ligue des Champions sur son canapé. C'est ils veulent revivre ça, ils veulent que et là pour le coup aujourd'hui, donc l'annonce il y a un mois que Electronic Arts récupère la licence de la Ligue des Champions, c'est l'achèvement de cette volonté-là.
C'est le show-off suprême.
C'est pour eux, c'est ce réalisme-là qu'ils veulent. C'est ça fait partie de leur truc. Ça fait partie. Et rien que le fait de donner l'accent sur les buts, sur les attaquants, etc. C'est déjà rejoindre un certain réalisme, parce que c'est ce vers quoi le foot tend aujourd'hui. Alors on va écarter la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde c'est très particulier, le sport de sélection, mais aujourd'hui le foot de très haut niveau, on tend pour la Ligue des Champions vers une ligue fermée, on tend vers des transferts qui sont ceux de Neymar, qui sont ceux de Cristiano, qui sont complètement fous, qui sont sur le bling bling, qui sont sur FIFA suit ça. FIFA, pour eux, c'est leur vision du foot, c'est celle qu'ils ont.
FIFA, c'est la philosophie Ballon d'Or. C'est la philosophie individualiste.
Est-ce que ça fait pas le jeu le plus réaliste, finalement, puisque c'est le foot qu'on a actuellement.
Ça dépend de ce que tu cherches dans un jeu de foot.
Ouais.
Pour beaucoup de gens, moi, je tape un peu le ballon le week-end, etc. J'ai du mal avec ça, parce que j'ai pas l'impression de m'y retrouver. Alors qu'en plus, ce qui m'a fait basculer de PES à FIFA en 2009, en 2010, c'est justement le fait qu'ils se sont remis sur le terrain. Et ils ont dit, nous, on va faire parler... on va essayer de revenir par le terrain.
Et c'est comme ça qu'ils sont revenus.
Il y a une époque où FIFA, donc de FIFA 09 à FIFA 13, tu as raison, c'était au moins une très grosse innovation par jeu. Et quand je te dis une très grosse innovation, c'était une innovation qui changeait complètement le fond du truc.
Un nouveau moteur, qui soit graphique, qui
soit
physique.
Il y a eu le dribble à 360 degrés sur FIFA 09. Il y a eu la défense tactique. La défense tactique, mm-hmm. tout le monde l'a intégrée maintenant. Cette fameuse qui a fait du mal à beaucoup de gens. Mais moi, à l'époque, moi en tout cas, je trouvais ça fabuleux parce que la distance de combat sur le terrain, tu l'as en fait. Fameux truc de rester à 1 mètre pour pas te faire passer, c'était hyper intéressant. Il y a eu donc le first touch, j'en parlais tout à l'heure. Il y a eu les collisions, le système de collision qui a été complètement revu.
Qui a fait du mal à Valbuena d'ailleurs.
Voilà, mais qu'on a tous adopté maintenant, mais que le fait que les défenseurs soient plus costauds et imposent leur gabarit à l'épaule, etc. Ça n'existait pas. Les mecs sont arrivés avec un truc. Et aujourd'hui, qu'ils aient un peu perdu le cap, qu'ils arrivent pas à se renouveler ou qu'ils soient partis, comme on le dit, sur une toute autre forme de réalisme, en tout cas, ils se sont éloignés
C'est ce qui leur a permis de remarcher, c'est de devenir une simulation du divertissement football et pas une simulation du sport football.
En tout cas, c'est leur aujourd'hui.
Ouais, mais c'est ça, encore une fois, je pense que c'est lié à la tyrannie de l'édition annuelle.
Bien sûr.
Si tu t'arrêtes à, alors tu vas loin, mais si ton FIFA 13 il est bon et que tu te dis bon pour le 14 j'ai pas une grosse innovation, ils sont obligés, hein, c'est utopique, hein, ce que je dis, c'est normal et c'est dealé de toute manière, mais que tu restes sur le FIFA 13 et tu te dis, comme, parce que ça reste un jeu vidéo, l'oublions pas, hein, t'as d'autres séries qui l'ont fait, on parlait d'Assassin's Creed, ça a été ça, à un moment on s'est rendu compte que en fait tu vends, t'es obligé de faire une édition annuelle pour vendre, parce que ton public l'attend, mais au final ton jeu il est de moins en moins bon, donc si t'espaces de 2-3 ans, Ça facilite et tu reviens avec de meilleures idées. Mais c'est
sur
utopique,
FIFA, c'est
pas possible.
Le vrai problème, c'est que les chiffres continuent de parler en fait.
Exactement.
Tant que les chiffres parlent, et pour le coup, Electronic Arts est une boîte qui est connue pour avant tout être une boîte commerciale et qui aime les chiffres.
Ils aiment bien les bilans financiers annuels.
C'est une boîte qui ne jure que par ça. Donc pour eux, FIFA, c'est aucun problème.
C'est aucun problème. Parce que là, vous heurtez un vrai débat entre le philosophique et le financier.
Non,
les
pas
mecs qui sont pas les
non,
mecs qui
non,
font...
pas non,
mais
forcément.
Si, parce que le mec qui développe FIFA, il a pas envie de faire le meilleur jeu de foot, il a envie de faire le jeu de foot.
Non, c'est
plus.
Pas vrai. Non, c'est différent. Parce que là, si on reprend Assassin's Creed, cet exemple, il est flagrant parce que c'est une énorme licence. Et à un moment, ils sont obligés ils ont été obligés de s'arrêter, de prendre le temps et de se dire bon, là, on commence à avoir un désamour. Et là, aujourd'hui, moi, une des remarques qui m'avait le plus marqué, on viendra certainement un peu plus sur la partie e-sport, mais quant à Rocky, qui était le champion du monde, qui était français, et qui à la sortie du nouveau FIFA tweet et dit ce jeu est une aberration et je veux pas y jouer et machin, c'est extrêmement dur et extrêmement lourd à porter. Alors il a pas une énorme aura et voilà, parce que pas grand monde connaît encore Rocky, mais ça veut dire
c'est
que
FIFA 17 je crois,
c'est sur FIFA, de FIFA 17 à passer
c'est pour FIFA 17
qui disait ça, et bah au final et sur FIFA 18 il a dit sensiblement
la même chose
parce que c'est au point où il a fait quasiment aucune compétition. Au final c'est fort parce que ça veut dire que ton meilleur joueur, c'est à dire que sur tes millions et des millions de joueurs, celui qui est le meilleur de l'année dernière, il prend ton nouvel opus et dit bah en fait j'ai pas envie d'y jouer, et ça c'est hyper lourd de sens.
À un moment, en effet, il a raison, il va y avoir peut-être, mais je sais pas. En fait, la différence, c'est que la différence avec Assassin's Creed, déjà, Ubi a mis du temps.
Hein. Oui.
Ubi a mis beaucoup de temps à se remettre en question. Il a fallu que les critiques soient mauvaises. Pour explication, les critiques de jeux vidéo sont notamment agglomérées par un système qui est loin d'être mon amour, mais qui s'appelle Metacritic, qui agglomère toutes les notes de par le monde, en tout cas des médias qui sont inscrits, beaucoup de médias américains. Cette note-là souvent est très importante pour les éditeurs, mais d'un point de vue vraiment financier, c'est-à-dire qu'ils en tiennent compte, certains cadres ont leur bonus indexé sur cette note-là, des choses comme ça, voilà. Donc la critique devient importante à un moment quand ça commence à grincer des dents, voilà. Évidemment, à un moment il s'agit d'écouter les joueurs, mais aussi voilà, ce genre de truc pour l'e-sport, FIFA ils veulent en faire un truc capital. En effet, si l'e-sport commence à grincer des dents, on peut se dire ça va bouger. Le truc, c'est que contrairement à Assassin's Creed, FIFA est dans un paradigme où globalement il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas ou plus de concurrence.
C'est plus rien, les ventes de PS. En France, c'était quelque chose.
C'était
le premier.
En gros, on est sur un 15e à peu près.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils en vendent 1 500 000 là où PES en 150 000.
Ce qu'on dit pas et ce qu'il faut quand même préciser pour tout le monde, ceux qui sont un peu moins dans le game, sans mauvais jeu de mots, vraiment, c'est de se dire que FIFA et anciennement PES, c'est le premier produit culturel. Culturel le plus vendu en France.
Et dans le monde,
que les gens,
c'est déjà énorme.
Pour que les gens se rendent compte de ce que c'est. C'est-à-dire qu'un jeu vidéo, la simulation de foot de l'année, c'est le produit culturel, je le répète, le plus vendu en France. C'est dire l'importance que ça a
et
dans les foyers aussi.
Pour renforcer ce que tu dis, c'est que ça devient le produit culturel le plus vendu en France sur une année alors qu'il PES est 6, sorti
c'est pas PES6 le premier est devenu le
alors peut-être je me rappelle plus mais je sais même pas
ça
si
ça
on
sort
est
en octobre
mais c'est surtout ouais. ça ouais, c'est que ça. En fait ouais. ça sort en octobre temps. Ils n'ont que 3 mois et ils cassent le truc en fait donc c'est un truc moi j'ai beaucoup de mal à imaginer j'aimerais qu'on mette en concurrence parce que globalement la concurrence ça veut dire que globalement ça s'est toujours traduit par un niveau qui monte vers le haut c'est que les mecs sont obligés de se tirer la bourre et ils apprennent l'un de l'autre alors à un moment ça a été des dizaines de références, puis quelques-unes, puis un duel FIFA PES, mais il y a toujours eu globalement un duel, ou au moins un duel. Là, putain, il est...
Le problème, c'est que aujourd'hui, c'est...
Là, c'est là où tu te rapproches du sport, c'est que finalement la rivalité te fait du bien et que quand tu, par exemple, tu prends pour le PSG, PSG n'a aucune rivalité, et du coup, ils n'arrivent pas à progresser.
Pour la rivalité, pour les, pour
fils
les...
de paille, c'est pas une réalité. Je te le rappelle la dernière minute.
Oula, le Lyonnais est en.
Désolé. Là,
non, mais non, mais le problème de pour revenir sur le jeu, c'est que c'est aussi. Alors, ça, on peut pas le. Enfin, c'est pas de la faute d'IN ni de FIFA. C'est qu'à un moment, PES et Konami a juste été zéro. Quoi. Ouais. Ils ont pas pris le virage du. Faut se rappeler, en fait, PES, sur le passage de la nouvelle génération de consoles, donc. Enfin. L'ancienne génération de consoles, donc PS3, Xbox 360, PES avait toujours le vent en poupe. Les deux premiers volets, on a voulu y jouer, mais et c'était une gaufrés. Catastrophe. Mmh. C'était buggé, le mode en ligne, on va même pas en parler. Et donc FIFA a gagné sur le terrain du jeu vidéo. Ouais. Ils ont gagné sur le terrain du jeu vidéo. Et PES.
J'ai, voilà. Dans le mag, j'ai interviewé maintenant ce Adam Batty, donc, qui dirige la licence PES, qui est au Japon maintenant, donc qui dirige le truc. Il est clair là-dessus, c'est-à-dire que pour un jeu de foot, rien n'est plus capital que la technique. Ils se sont gaufrés sur la transition, ils l'ont payé de leur quasiment de la vie de la licence, c'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui Pro Evolution Soccer, alors ça continue, faut pas non plus voilà, ça continue de se vendre, hein, voilà. Mais au moment où Konami notamment commence à fermer les robinets et commence à éteindre ses plus grosses licences de jeu, ils ont arrêté Castlevania, ils ont arrêté Metal Gear, ils gardent PES pour le moment, il y a pas de problème, mais enfin comparé à ce qu'ils étaient, c'est très très difficile. Ils ont loupé une marche qui ça leur a coûté excessivement cher. Là, ils ont essayé, ils en ont tiré les leçons et ils ont essayé de, en fait, sur la transition vers la PS4, de prendre le truc en amont. Et ils ont eu conscience de ça, ils ont pris un nouveau moteur, donc le moteur qui avait été designé pour Metal Gear, ouais. le Fox Engine, ça leur a fait énormément de bien.
Qui est très très bien.
Qui est, voilà, ça fonctionne très bien, mais malheureusement, le mal est un petit peu déjà fait. Donc,
On sait jamais. On espère. Je voudrais revenir sur on a parlé tout à l'heure de l'individualisation du foot, qui était marqué dans FIFA. On le voit maintenant sur un match de FIFA, on va quasiment passer autant de temps à regarder ces joueurs célébrer un but, on va regarder le ralenti du but, on va regarder les célébrations, la fête, le spectacle autour du foot. Est-ce que c'est le foot qui est devenu comme ça plus individualiste et qui s'est donc ça s'est ressenti dans FIFA, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est les joueurs ayant conscience de la célébrité qu'ils ont et de l'importance qu'ils ont aussi à travers le jeu FIFA, qui vont toucher peut-être un public un peu plus large? On voit les mecs qui sont contents de poser avec leur carte FIFA, Benjamin Mendy réclame une meilleure note sur Twitter, donc c'est important pour eux. Est-ce que c'est pas finalement l'inverse? C'est pas FIFA qui a eu une influence sur
c'est un échange en fait.
Non, moi je suis persuadé que c'est le football aujourd'hui. FIFA ne fait que suivre. FIFA n'est pas un vecteur de tendance. Il suit les tendances, il les colle au plus près, en tout cas pour moi. Mais c'est pas FIFA qui a inventé la célébration, tel ou tel truc. Non, c'est FIFA reproduit à merveille, je trouve, une réalité du foot qui est aujourd'hui. C'est un miroir, exactement. Et les mecs, ils sont pas là, ils inventent pas. Ils inventent évidemment des choses, mais ils inventent pas le football qu'on voit à la télé. Et dans FIFA 19, quand on verra Griezmann faire sa célébration Fortnite, pour moi, ça sera l'alignement des planètes.
Il y a peu de chances qu'elle y soit.
Alors, pour des raisons, j'imagine, de studio, etc.
De Tencent du côté de la Chine, emmenez-vous pas.
Bon, voilà, mais en gros, pour moi,
je crois qu'elle va y être.
Ah ouais?
Aïe.
Tu vois vraiment. Ça serait beau.
Écoute, je me souviens, il y avait FIFA 19 à l'E3 et je crois me souvenir qu'elle y était. Il me semble même qu'elle était dans la bande-annonce. Je dis peut-être une connerie, j'ai un souvenir comme ça.
En tout cas, c'est pour vous dire à quel point c'est dingue. C'est-à-dire que dans un jeu vidéo qui veut copier la réalité, c'est un mec qui fait une célébration d'un autre jeu vidéo qui va être dans un jeu vidéo, enfin une espèce de mise en abîme incroyable. Et pour ça, c'est le football en fait. Il y a une culture jeu vidéo chez les jeunes joueurs d'aujourd'hui. Ça c'est voilà. clair et net.
Voilà.
Mais c'est pas FIFA qui leur a fait ça. C'est eux qui se sont approprié ces nouveaux codes. Si on avait eu des jeux vidéo, enfin je sais pas moi, c'est juste les jeux vidéo qui sont partis d'une culture des joueurs d'aujourd'hui.
C'est un échange en fait. C'est-à-dire que pour reprendre ta métaphore du miroir, c'est que le jeu est un miroir de la réalité, ça c'est la base en fait. C'était le cas dans les années 2000, etc. Et c'est toujours le constat de base. Le fait est que, exactement comme tu l'as dit, le fait qu'il y ait eu cette émergence de joueurs qui, de joueurs de foot qui étaient joueurs de jeux vidéo, en fait, c'est institué, il y a eu un cycle en fait. C'est-à-dire que les mecs ont voulu être bons pour être bons dans leur jeu préféré.
Voilà.
Et leur jeu préféré.
Donc ça a une vraie influence.
Bien sûr qu'il y a une vraie influence. C'est-à-dire que Mendy. Il me semble que
faut rappeler son tweet qui est incroyable. En gros,
mais
Mendy
il est pas le seul.
Voilà,
il y a Batshuayi aussi.
Mendy dit en gros, il avait 78, je crois, et Evra 82. Il a envoyé un tweet donc officiel public à EA en disant les gars, vous avez vu la même saison que moi l'année dernière ou pas? C'est la saison où il était champion de France avec Monaco.
C'est pour eux, c'est très important de d'apparaître bien dans leur jeu préféré, et c'est très important pour plein de raisons. C'est très important parce que déjà il y a un côté fierté. Le foot avec les copains, machin, truc. Moi, j'ai pas envie de passer pour un bolos devant les potes et tout. Comment ça se délire? Très bien. Il y a un côté commercial à ne pas du tout éluder.
Oui, parce que leur image que, sera d'autant
parce
plus
que leur
si
image, bien sûr, parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a des, notamment des gosses qui évaluent les joueurs par rapport à ce qu'ils sont dans le jeu. Et surtout, avec le fait que les stats s'affinent de plus en plus avec l'exposition médiatique, etc. Il faut pas minimiser aujourd'hui la place de l'image que t'as dans un jeu vidéo sur la carrière d'un joueur. Ouais. C'est-à-dire que pour lui, être nul dans un jeu, c'est aussi dire quelque part qu'il est nul dans la vie en fait. Et s'il est nul
tu
dans la vie,
tu penses vraiment qu'aujourd'hui, genre les directeurs sportifs, ils se disent,
alors on va pas,
je vais pas le prendre.
Non, pas forcément sur
pas
FIFA.
Le grand public.
Alors pas forcément sur FIFA, par contre sur Football Manager.
Sur Football Manager, oui.
Oui, clairement. Sur Football Manager,
il y a beaucoup moins d'erreurs, je trouve, sur Football Manager. Il y a beaucoup moins d'incongruité, de.
Alors pour. En gros, pour situer un petit peu, que ce soit PES, Football Manager ou FIFA, les stats sont constituées par des équipes de scouts, donc de recruteurs. Dans le cas de Football Manager, par exemple, c'est à peu près 1500 personnes à travers le monde qui sont tous bénévoles et qui ont des profils différents. Ça peut être des fans, des passionnés qui vont voir le match régulièrement, ça peut être des fois des kinés, des vrais recruteurs, des journalistes. Il y a vraiment de tout en fait. Et en gros, c'est une base centralisée, donc t'as vraiment des recruteurs professionnels dans le tas, t'as des trucs, ce qui fait que t'arrives à cette finesse-là. FIFA et PES, c'est à peu près la même chose. Pour Football Manager, en effet, t'as une espèce de précision dans le truc, mais surtout, t'as eu des joueurs qui ont été repérés à Football Manager.
Ah, ouais. T'as aussi des mecs qui ont jamais percé.
T'as les mecs qui ont jamais percé.
Mais, sûr,
mais par contre,
beaucoup.
Souvent, c'était des mecs qui étaient vraiment bons en jeune. Mm-hmm. Et s'ils ont pas percé, c'est pas forcément parce que le jeu s'est planté. C'est juste que les mecs se sont un peu fourvoyés. Mais
puis après, t'as le droit à un jeu de mettre un petit potentiel en plus sur tel ou tel truc. Parce qu'il faut jamais oublier que c'est un jeu. Et qu'ils ont le droit de mettre un petit super pouvoir, entre guillemets, un petit mec comme ça.
Et puis ils l'ont senti sur le coup. Tu vas aller voir au tournoi de Toulon. Tu le trouves formidable, machin. Bon, bah sur l'édition.
Tu crées une petite hype dessus.
Voilà, tac. Je veux dire, Lozano, là, rien ne nous dit que dans deux ans, il sera pas au Lokomotiv Moscou et que tout le monde l'aura pas oublié.
On l'a vu que c'est un bon genre de foot aussi.
Apparemment, ça a l'air d'être un bon. Mais tout va très vite, tu vois. Donc, le truc, c'est que, globalement, Miles Jacobson, moi, me l'a dit par mail. Il m'a dit, moi, des coups de fil d'agents pour dire.
Oui, il me l'a dit moi aussi, parce que
voilà,
j'ai eu la chance de le rencontrer.
Aussi.
Il m'a dit, genre, moi, j'ai des agents qui m'appellent pour booster des trucs, machin, etc. Et lui, c'est un peu un ayatollah de ce truc-là. C'est-à-dire qu'il veut vraiment, genre, protéger sa licence.
Bien sûr.
On parlait de succès d'estime et de succès financier. Je trouve que Football Manager, c'est un succès d'estime incroyable et que je sais pas s'ils gagnent beaucoup d'argent, ces gens-là, parce que finalement.
En tout cas, ça fait 5 ans qu'ils dépassent le million avec chaque jeu. Donc, le million de vente. Hein.
De vente, voilà, mais
donc,
je pense que.
Ils gagnent confortablement.
Sans aucune mesure de différence.
C'est pas le studio qui lâche le plus dans le développement de.
Oui,
de,
après, voilà.
Voilà, c'est un studio qui garde des acquis aussi, ils ont des grosses équipes, mais oui, si, ils gagnent de l'argent sans problème.
Voilà, mais ils en gagnent pas des millions et des millions,
c'est pas pourraient,
voilà, c'est ça.
Je pense que
c'est moins divertissement. C'est moins divertissement aussi.
Mais oui,
c'est pas
sûr.
La même cible, c'est pas du tout show off, c'est pas, enfin on rentre pas dans
bien
la
sûr,
même catégorie.
Après, pour revenir sur les joueurs sont tous des marques maintenant. Chaque joueur est sa
exactement.
Marque. Pogba et aujourd'hui,
j'allais dire Pogba.
Kanté, c'est l'incarnation de ça. Mais même aujourd'hui, complètement différemment, Kanté a le potentiel de devenir une marque. Alors est-ce qu'il le fera? Il le fera pas? Est-ce que ses agents choisiront pas? Mais au sein d'un jeu qui aujourd'hui, encore une fois, c'est si tu prends FIFA ou même Football Manager, c'est des médias qui ont des cibles différentes, une plus large, une plus spécialiste. Mais t'es diffusé au sein d'un média et donc ton nom, ta personnalité, t'es une marque et donc tes valeurs, est-ce que t'es
c'est
moins
image,
tes
c'est ça,
valeurs
c'est ce
que plus
disais,
que ce que ce que tu pourrais potentiellement
je suis
être
tout à fait d'accord avec ça
je pense que représenté au sein de ces médias quoi.
Ouais, je pense qu'avoir une bonne note dans FIFA te permet d'avoir des contrats publicitaires mieux
bien sûr
que
bien
si
sûr
t'en avais pas une note, c'est quand même
et puis tu sais des trucs...
ne donnons pas trop d'importance non plus à cette note là
non, mais ça en fait
parce
partie.
Que nous on est vraiment dedans etc. Je pense que
c'est avant d'avoir une bonne note ou une mauvaise note à FIFA, il y a, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent
ouais,
en ligne.
Aujourd'hui, tu vas sur FUT, tu vas sur FUT et tu cherches ta premier truc que tu regardes, c'est ton budget que tu veux donner sur ta carte et la note minimum que tu veux. Et si tu vois, genre si tu mets 85 et que t'as tout un paquet de 84, bah tu vois, tu rentres dans la masse et il suffit que toi t'aies un point en plus parce que t'as une statistique qui te permet de surélever. Et d'un coup, on va se dire, ah, mais en fait, ce gars-là il ressort vachement.
Voilà, tu vas ressortir aux yeux d'un
public. Tu vas le garder
en fait. Ouais, ça, c'est une fois que c'est fait. Moi, ce que je pose comme question, c'est comment, c'est quoi le truchement de la pensée pour se dire, ce gars-là, je lui mets 84 ou 85. Et c'est dans cette espèce de comité de notation, ça doit exister, je sais pas comment ils se démerdent.
C'est ça, c'est le
métier. C'est quoi, c'est Opta pour FIFA et...
Non, pas du tout. C'est eux aussi ont leur propre réseau de recrutement.
D'accord. Okay.
Ils ont tout un tas de critères qu'on va pas forcément détailler, mais ils ont tout un tas de critères, plusieurs observations, pas forcément une observation d'une année sur l'autre dans la mesure où le joueur a pas forcément bougé, ou alors ils l'ont vu, ou alors il est... Enfin voilà. Mais globalement,
ils ont un truc en gros, genre c'est con ce que je veux dire, mais ils ont une espèce de note entre guillemets marketing où un mec par exemple, Pogba c'est une marque. Ils Pogba ne vaut
jamais.
Pas 88 ou 89 dans FIFA. Il vaut pas dans la vraie vie, enfin, mais il est champion du monde très bien.
Il est champion du monde.
Bravo les Bleus d'ailleurs. Là. Mais je trouve que ce joueur-là, il y a des joueurs surcotés, il y a des joueurs surnotés.
Alors le problème en
plus, comment ils le font ? C'est parce que c'est un joueur qui est populaire et donc du coup FIFA va se dire j'ai besoin de surnoter ce joueur-là parce qu'il est populaire, parce qu'il fait vendre, parce que les gens l'aiment, etc. Est-ce qu'il y a
alors,
ça aussi
le truc, c'est que un, ils te le diront jamais.
Ah, c'est pour ça que je te pose la question. À toi.
Ah mais ils nous le diront jamais. Ils nous le diront jamais non plus. Le jeu vidéo est une industrie hyper verrouillé et tout ce qui est dit c'est calculé que c'est dit et tout ce qui n'a pas à être sorti ne sortira pas.
C'est pour ça que je te demande ton feeling, genre ton...
Ils le diront jamais. Après au niveau du feeling etc, juste pour préciser un truc par rapport à ce que tu dis, c'est que tu joues à FUT et que FUT est une abréviation d'un profil de stats qui est lui-même abrégé, donc
c'est
en
vrai.
Fait on est sur des cartes qui ont 4 stats qui sont des liens de plusieurs stats etc. Les stats, si tu regardes bien et si tu fais la moyenne, ne correspondent souvent pas à la moyenne de tout.
C'est plutôt
intelligent. Regarde ton général et c'est pas
en fait,
exactement
non,
c'est
vrai, ce que sur FUT. Sur FUT,
non,
ça ouais, tombe
pas
fais
bien.
La moyenne de toutes
non.
les notes.
Non, sur FUT, t'as six notes générales, mais quand tu regardes à l'intérieur, tu as le détail de chaque note.
Tu as le détail,
note.
Mais c'est, si tu veux, combien de personnes vont voir le détail
ouais.
Absolument aucune.
Je suis
tout
seul.
Il faut cliquer sur le joystick et tout machin. Tout ce que tu regardes, c'est le général de ta carte.
Bien sûr.
Le général de ta carte, pour
ça
moi,
veut rien dire.
Il veut rien dire. Il a aucun sens. J'adorais jouer avec des joueurs qui avaient 78, juste parce qu'au niveau du feeling, c'était juste ouf, tu vois. Mais bien sûr, pour revenir à ce que tu dis, je pense pas que tu aies quelque chose comme de l'achat de notes. Tu vois ce que je veux dire ? Non, c'est... Par contre, il y a un truc où il est question de se mettre bien avec des porteurs de marque, bien sûr.
Et puis
bien
il est
sûr.
Question aussi par rapport, moi j'ai souvenir
la jaquette,
de la jaquette par rapport à PES quand Ronaldo est passé là chez PES. T'as Ronaldo Messi incarne vachement ça aussi. C'est-à-dire qu'ils les mettent toujours. Il y en a un fois qui aura un point de plus, mais l'année où Ronaldo est passé chez PES, je crois que Messi et Ronaldo avaient la même note comme ça.
Non,
moins,
mais ils sont toujours un point d'écart. Et en fait, cette année, Ronaldo est meilleur parce qu'il est plus sur la jaquette ou il est sur la jaquette.
Ce qui est sûr, c'est que je pense.
Mais sur ces deux-là, je veux bien, mais c'est sur des joueurs. C'est genre vraiment marketing. Je prends l'exemple de Pogba, c'est ça. Pogba, c'est, j'ai l'impression qu'il fait partie de ces joueurs qui sont ultra médiatisés, donc qui sont surnotés. Comme ils sont surévalués.
Mais peut-être qu'ils sont même surnotés dans ta tête en fait. C'est-à-dire que c'est avant tout l'expérience des spectateurs. Comme on voit Pogba tout le temps, partout.
Bon, c'est
évidemment,
dis,
il
ça.
Est trop fort Pogba. La personne, c'est pas ça que j'ai envie de dire. Mais même dans l'esprit de tout le monde, en fait, je pense que la note, c'est plus important qu'elle reflète l'esprit. La note qu'il devrait avoir dans l'esprit des gens. Plus
on revient à l'idée de spectateur.
Voilà, exactement.
C'est, bien sûr.
J'aimerais qu'on aborde un dernier sujet parce que cette émission encore
et
passée.
Oui,
jamais, on fait jamais 45 minutes, jamais. C'est jamais arrivé encore. dernier sujet, je voulais qu'on parle un peu d'e-sport parce que le foot c'est un sport, le jeu vidéo aussi, même s'il y en a que ça énerve. Vaste débat qu'on va
là, Fabien,
clairement
faut pas trop le lancer là.
On va clairement pas avoir aujourd'hui. Non, mais en revanche, j'aimerais vraiment avoir ton avis, Fabien, là-dessus, parce que ça m'intéresse. Est-ce qu'aujourd'hui, l'e-sport sur FIFA, c'est une promotion pour l'e-sport, c'est une promotion pour le football, les deux à la fois, comment tu vis ça? Parce que c'est très différent du reste.
Autant hein, d'avis que de personnes.
C'est le tien qu'on veut, on s'en branle.
Le mien, pour être. merci. Avis à tous les autres de l'e-sport. Alors, le mien, c'est que FIFA n'est pas e-sport. Voilà.
Yes.
pour dire ça. Deuxième bombe lâchée dans cet épisode.
Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est pour la même raison. Enfin, je vais te laisser développer, mais à mon sens, c'est pour la même raison que ce qu'on explique depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que FIFA est une simulation du divertissement football et de l'expérience spectateur télé plutôt
plus
que
rien à dire.
Du sport.
Parfait. C'est bon. Fin de l'émission.
Eh ben voilà, on a fait 45 minutes.
Non, il y a deux choses. C'est que FIFA est forcément pour le monde de l'e-sport. Donc, on rappelle pour ceux qui savent peut-être pas. En gros, pour faire très simple, l'e-sport, c'est la pratique compétitive des jeux vidéo et dans un deuxième temps la pratique compétitive professionnelle des jeux vidéo. FIFA est forcément une porte d'entrée dans ce monde-là parce qu'il explique les codes de manière très simple, parce que on voit le jeu de foot, on comprend que c'est un joueur parce que tout le monde joue à FIFA, donc tu es un joueur, tu peux être joueur professionnel, t'as la notion de compétition et ça suit les règles
du foot normal, quoi.
Du foot normal, t'as un group stage, 8e, quart, etc. dans les compétitions. Pour autant, l'e-sport, le fonctionnement de l'e-sport et le développement, c'est un truc qui est à part dans le monde du jeu vidéo, qui a suivi des tendances et ça a toujours été une expérience. C'est-à-dire que si aujourd'hui on prend les grands noms de l'e-sport, Counter-Strike, StarCraft avant, Rip. League of Legends aujourd'hui, Dota, Fortnite peut-être bientôt, ce sont des expériences qui sont irréelles plutôt dans ce sens-là, donc qui ne peuvent pas exister. Aujourd'hui, un magicien qui balance un sort de téléportation, bon, tu pourras difficilement le voir dans la rue.
Parfois en fin de soirée, ça peut arriver.
Parfois, mais dans ta tête.
Dans ta tête, bien sûr, dans ma tête.
Mais donc. FIFA va avoir, mais FIFA c'est la même chose pour aujourd'hui si on prend un prochain Top Spin ou un NBA 2K ou peu importe, toutes les jeux de simulation sportive qui te donnent la même expérience spectateur et même joueur que ce que tu peux avoir en vrai. Ça n'a pas d'intérêt.
Dans le développement de la compréhension du sport.
Non, mais ça n'a pas d'intérêt dans ton côté e-sport, parce qu'encore une fois, la vraie question.
Tu feras jamais rien mieux que le sport en fait réel, c'est ça.
Et puis parce que tu es aussi biaisé par tout ce qu'on vient de dire, qu'aujourd'hui, si EA décide de faire que ça soit sur l'attaque ou que ce qui fonctionne, on peut des glitches, des trucs du jeu, du toujours le même dribble à 360. Moi, j'ai souvenir qu'il y a, c'était FIFA 17 ou 16, je sais plus, où le truc des joueurs pour regarder beaucoup de compétitions, le truc des joueurs pro e-sport, c'était de faire toujours un pas en arrière et de faire son ballon, il recule avec toi en arrière. Tu verras jamais ça tout le temps voilà, à part Nzonzi qui fait tout le temps en arrière. Mais sinon, tu verras
champion
jamais
du monde
ça.
Nzonzi, champion du monde, on respecte.
Champion du monde, on respecte. Donc voilà, ça c'est mon point de vue sur le fait que ça soit pas e-sport. Pour autant, c'est compétitif, il y a aucun souci là-dessus, et c'est une vraie porte d'entrée pour la compréhension. Maintenant, à mon sens, les compétitions e-sport sur FIFA, c'est surtout du business. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'amour de la compétition de l'e-sport comme on peut l'avoir. Alors l'e-sport est un grand monde, un grand business qui est en train de se développer. Mais aujourd'hui, l'exemple en France, c'est Laurent Gilliguin. Ouais. Pour connaître la chose et avoir été en réunion, Laurent Gilliguin, c'est très clairement un produit de la LFP pour mettre en avant la Ligue 1. Et pas par amour de l'e-sport pour... Et globalement, ce qu'on va appeler les partenaires non endémiques ou les annonceurs, donc des gens qui ne font des marques qui ne font pas partie du milieu de l'e-sport et du jeu vidéo, quand elles prennent à bras le corps la problématique e-sport, et on le sait, c'est pas pour l'e-sport et l'amour de l'e-sport, c'est parce qu'on va toucher une cible, les fameux millennials, les 18-35 ans, et donc que ça soit l'e-sport ou demain si le tarot touche les millennials, ça sera le tarot et ce sera l'orange tarot Ligue 1. Et en fait, c'est vraiment ça, donc c'est plutôt un produit marketing et on est là pour marketer, et c'est pas pour rien Laurent Gilliguin, voilà, ils ont fait un deal avec tous les clubs de Ligue 1 où ils ont des compétitions directement dans le jeu pour avoir
dans les
son
stades.
Propre,
ça se passe même
son
avant
propre
les matchs,
représentant avec son maillot, etc. Ouais.
Et c'est la même chose du côté de la fédération, parce que quand on pense à la formation en foot, ce qu'a fait la fédération française, et c'est le bon moment pour en parler.
Ils ont la première équipe.
J'ai vu ça, ouais. On a battu la Belgique encore. C'était la Belgique.
C'est ça. Avec
Courtois.
On a alors.
On a dû certainement beaucoup défendre.
C'est non. C'est vrai. Et on méritait pas. Vaut mieux avoir le jeu de la Belgique qui est passé. Mais alors là, les choses sont un peu mieux faites parce que c'est plutôt sur le côté sportif. Ouais. C'est encadré par quelqu'un qui s'appelle Néo. Son pseudo, c'est Néo. Ouais, c'est le président de Team Vitality, qui est aujourd'hui le plus gros club et certainement le plus beau palmarès
en France.
Donc c'est plutôt bien encadré, ils ont fait des qualifications, ils font ça de manière totalement intégrée au sein de Clairefontaine avec des vrais stages.
Ça change.
C'est bien fait, mais encore une fois, c'est fait dans un outil de marketing.
L'idée, c'est de vendre quand même l'équipe de France.
Tu vends l'équipe de France. Mmh. Et alors, j'ai déjà eu ce débat un petit peu, et je sais qu'il y a pas mal de joueurs e-sport de FIFA qui m'en veulent, mais personnellement, voilà, il y a la même intensité que n'importe quel autre joueur, parce qu'il y a des vraies règles.
Ah oui.
C'est juste que l'expérience e-sport, elle ne fonctionne, et c'est pareil pour le sport, si on doit faire un parallèle, soit dit en passant, l'e-sport n'est pas un sport, parallèle avec le sport, c'est d'abord une expérience spectateur, l'e-sport. Ce qui fait que ça émerge, c'est parce que tu as des gens qui le regardent. Mmh. Et c'est pas parce que tu as des gens qui jouent, parce que si tu veux le développer, il faut que ça devienne un business. Si tu veux un business, il te faut une visibilité, il te faut des gens. Et donc, c'est d'abord ton expérience spectateur qui va faire que ça fonctionne. Et donc, on revient, à mon sens, à la problématique de base, qui est que si tu mets deux télés côte à côte, que tu mets un classico Barcelone-Real qui se passe pour jouer le titre et un classico Barcelone-Real qui se passe pour être champion du monde de FIFA, je vais te regarder tous les jours, tous les jours, le vrai classico, parce que j'ai la même expérience. Pourtant, pour moi, il y a un truc qui est possible si vraiment ils veulent développer d'un point de vue purement e-sport, c'est une expérience qui est nouvelle. Et aujourd'hui, l'11 mode de jeu, c'est le 11 contre 11. Le 11 contre 11, aujourd'hui, tu as un développement de quelques ligues nationales, il n'y a personne qui regarde, mais tu as une vraie expérience. C'est un truc qui est différent, tu as possibilité d'avoir des angles de caméra et tu peux avoir un vrai développement. Ça se fera certainement jamais.
Parce que ce sera compliqué à regarder, à suivre, tu peux pas
voilà,
suivre.
Voilà, mais sur, c'est, pour moi, ça reste, voilà, ça reste deux problématiques qui sont différentes. Ouais.
Le truc, c'est que. Oh, pardon, désolé.
Non,
on est tellement à la bourre.
Le foot aussi, je rejoins complètement tout ce qu'il a dit. Le foot aussi proche de l'e-sport, en tout cas soit-il, sur le principe, c'est-à-dire les, en effet les compétitions, la 8e, machin, finalement, ils partagent plein de codes hyper faciles à comprendre, etc. Le foot n'est pas devenu e-sport très vite, en fait, même très tard. D'abord à cause du fait que le jeu de foot, c'était essentiellement console, et les consoles, jusqu'à très 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 rare, on l'a dit, jusqu'à PS3 360, bah, pas de connectivité en ligne. Enfin, la PS2, il y avait le modem à l'arrière, bon. Mais en gros, bah, pas possibilité de jouer en ligne, donc déjà t'élimines la scène e-sport, elle est née sur PC, hein, voilà, la scène e-sport, elle est née sur PC, elle est née sur des LAN, sur des trucs que tu pouvais connecter, hein. Donc déjà ça arrivait très tard. Et
il y a eu
plus,
le dédain d'IA aussi, il faut
y a eu, oui ils ont mis énormément de temps à là où pour le coup, encore une fois, Konami a senti un peu plus le truc en amont avec la PES League, qui était finalement une espèce de proto e-sport, enfin proto compétition e-sport. Je voudrais pas fâcher mon collègue ici,
ça devient très technique, mais proto e-sport, j'avoue que
il y a plus de trois syllabes,
c'était hyper artisanal, c'était genre ils faisaient venir les gens, c'était pas un peu partout en France, dans les grandes villes, c'était dans des gymnases, dans des trucs comme ça, et c'était vraiment sur les consoles, claque, chacun, t'avais ton mec à côté. Enfin,
ah, mais j'ai fait ça.
Je comptais la gagner.
Ouais. La PS League, ouais, je pense. Hein, ouais,
tout le monde a fait un truc. Ça se terminait souvent au Stade de France ou dans.
Oui, voilà, exactement.
J'ai jamais été au Stade de France.
Ça, Konami l'a fait dès 2003, je crois. Donc, ça a été assez tôt, mais ils ont complètement arrêté. EA n'en avait rien à fiche jusqu'à 2008, je crois. Là où ils ont commencé à mettre la FIFA World Cup en place.
Ouais, ouais. Après, ça restait un événement. Aujourd'hui, ils l'ont vraiment pris. Ça fait un an et demi. Ça fait deux éditions dont ils en parlent. Exactement. Où ils ont mis en place tout un système qui est assez incompréhensible. Alors maintenant c'est un peu plus simple, des sortes de majors, des qualifications, voilà, partout. Ouais, ça reste assez incompréhensible.
Il a raison, en plus c'est hyper velu, c'est-à-dire qu'ils font des trucs, là par exemple l'Orangie Ligue 1, c'est un bordel. C'est tu joues pour ton club, mais
c'est organisé à part. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est que tu vas avoir normalement t'as deux choix possibles dans le développement e-sport. C'est soit un éditeur de jeu, donc typiquement EA dit on prend tout, personne fait rien, on gère tout, on cadenasse.
Exactement.
Et les gens talentueux, on les ramène dans notre cercle. Soit ils disent ok, on laisse ouvert à tout le monde parce qu'il y a des gens qui le font très bien et on va accompagner, développer, amener du budget. Eux ils ont dit venez on fait les deux. Venez on fait notre propre truc et on l'ouvre parce que ça va le faire un côté. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui tu as la fin de la FIWC, mais tu vas avoir l'Orange Ligue 1, ensuite tu as la Coupe du Monde des clubs, ensuite tu vas avoir un autre événement encore dans des gymnases parce qu'ils veulent continuer.
Là où par exemple un Blizzard a pris son truc à bras le corps et a fait son Overwatch League.
Ouais.
Qui l'organise eux-mêmes, c'est fermé, c'est eux qui contrôlent et c'est pas la même, c'est clairement pas la même chose.
Non.
Mais
pas la même production.
Voilà, et voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc
il y a encore beaucoup.
En plus, je rejoins ce qu'il a dit aussi sur l'espèce de partage du gâteau. Globalement, en plus, tout le monde se jette dessus. Donc, il y a eu City, Paris, Wolfsburg qui ont maintenant leur joueur de voilà.
Ça fonctionne bien.
C'est juste un deal en fait. C'est un deal. L'argent est là, donc ils se lancent là-dedans. Mais si demain l'argent est ailleurs, voilà.
Ils iront.
Bien, s'il est temps de passer à la dernière séquence de, ce, de cette émission, ouais, déjà, avec une petite quinzaine de minutes de retard, c'est l'extra time. On va faire un petit tour de table pour terminer cette émission, pour que vous nous racontiez tout simplement votre plus beau souvenir. Ça peut être le jeu de foot qui était le mieux, qui vous a le plus marqué, un joueur dans un jeu de foot qui vous a le plus marqué. Voilà, un peu ce que vous voulez, un truc, faut que ça soit émouvant. Yannick, on commence par toi.
Moi ça remonte à Mega Drive, quand même pas. Non, je pense que le vrai souvenir de foot que j'ai sur console, c'est à l'époque où sur PES on pouvait fixer. Alors, je sais pas si vous vous souvenez ce que c'est que fixer, c'est quand tu choisissais ton camp, tu pouvais sélectionner un seul joueur à contrôler sur le terrain. Et ça, je faisais ça avec mes potes. Je me rappelle qu'on...
Jamais fait ça.
Tu peux toujours le faire.
Hein. Tu verrouilles en fait un joueur.
Tu verrouilles le curseur en fait.
Exactement. Et donc du coup, tu choisis un seul joueur. Et donc du coup, nous on jouait une espèce de 4-5-1. Donc je jouais 10. J'avais un pote ailier gauche, un pote ailier droit, un pote numéro 6 et un pote attaquant. Et en fait, on jouait ensemble comme ça. Et j'adorais ce mode de jeu-là. Pourquoi ? Parce que j'étais numéro 10, donc je voyais le jeu en fait, tu vois, j'avais l'impression d'être fort, tu vois, j'avais ma vision de jeu qui fonctionnait bien. C'était aussi être seul, tu vois, au service du collectif, parce que tu distribuais les ballons à tes copains, etc. Et je trouvais ça super cool. Et c'était surtout un super moment de communion, comme je disais tout à l'heure, où je me rassemblais, j'étais avec mes 5 potes, on faisait ça tous les samedis. Et c'est pour moi mon souvenir des années lycée. C'est-à-dire que ce que je faisais, je séchais les cours pour faire ça. C'est pas bien, ne le faites jamais chez vous.
C'est un truc hyper sympa dans FIFA qui est une formidabilité, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, le
11 contre 11.
Le 11 contre 11.
Mais c'est un peu une
idée formidable, qui est une idée vraiment géniale, mais sur lequel tu pars tu vas jouer avec des inconnus, t'en as pas un qui va jouer latéral droit.
Il y a l'autre idée formidable aussi, si, pour les joueurs PS4, c'est si t'appuies sur ton pad de la manette, ça arrivait à plein de gens ici, tu te retrouves avec le gardien et t'as une panique qui s'installe chez les joueurs de qu'est-ce que je fais contre gardien.
Mais tu vois, c'est ça, et le fait de fixer, pour moi, c'est les vrais souvenirs que j'ai de mes années lycée où je ponçais vraiment de jeu et j'étais là avec mes potes, les croqueurs, on était là tous ensemble et on kiffait et on passait nos samedis à jouer ensemble, et parce qu'on était ensemble sur le même canapé. Et en vrai, on jouait ensemble, mais on parlait de la soirée qu'on allait faire et de ce qui s'était passé, etc. Et c'est pour moi le vrai souvenir de console, de jeu, qui est en fait qui est lié à surtout une amitié que j'avais avec et que j'ai toujours avec ces gens-là.
On salue les croqueurs, alors merci.
Amitié à tous les croqueurs.
Et on a les surnoms qu'on mérite quand on est lycéen. Désolé les gars.
Fabien, t'as un souvenir particulier?
Moi, il y a un jeu, alors surtout sur un jeu qui m'a marqué, t'en as plein, t'as FIFA 98, FIFA 2000, l'intro. Mais moi, celui qui m'a marqué, c'est vraiment FIFA 2009. Parce que c'était le moment où tu sens que d'un coup ça passe ailleurs. Voilà, PES c'est terminé. Et t'as FIFA 2009 où on en parlait, ils ont gagné sur le terrain du jeu. Et là je me dis waouh, là on passait sur une nouvelle génération de consoles. Enfin, c'était la deuxième édition sur PS3 360.
C'était vraiment la première
des
la...
En fait, pour si je dis pas de bêtises, je crois que la 2008 était juste un portage de version PS2. Et là ils avaient travaillé sur le nouveau moteur. T'avais un nouveau moteur graphique de physique, c'était vachement intéressant. Et t'avais les prémices de tout ce que ça donne aujourd'hui. Et je me rappelle qu'avant, moi en fait, j'avoue, je fais une petite confession, j'étais toujours FIFA. C'est-à-dire que j'étais le gars qui achetait FIFA 2004 pour faire les coups francs. Tu faisais avec la courbe et tu prenais Ronaldinho, tu choisis avec ton deuxième joystick qui frappe en bas à droite pour faire un enroulé. Et je jouais à PES chez les potes et j'étais toujours sur FIFA. Et là, c'est vrai que ce FIFA là, je me suis dit, ok, ça y est, on passe dans un autre
T'avais
truc.
T'avais pas l'impression d'avoir deux femmes un peu?
Non, mais je faisais partie.
C'est pour ça que 2009.
Bah non, à l'époque, non, j'avais.
J'avais zéro. Non,
j'avais mon brevet à passer déjà. Et non, j'avais. Non, FIFA 2009, ouais, c'est un truc qui m'a marqué. Et aussi, toujours une petite. Je la place, même s'il fallait en donner qu'une. FIFA Street. Voilà, FIFA Street, ça a toujours été.
Le premier
Non, 3. Le côté cartoon, ça partait en live dans tous les sens, ça faisait des trucs. C'était Olive et Tom, c'était génial. Voilà.
C'était rigolo, FIFA Street.
Exactement.
Florian,
je réfléchis depuis tout à l'heure. Heureusement que je suis le dernier. Il y en a plein en fait. Mais écoute, il y a eu cette saison hyper mémorable avec, enfin cette carrière plutôt hyper mémorable avec le club de ma ville, avec Toulon sur Football Manager 2007.
J'avoue que j'ai pas parlé de Football Manager.
Où j'avais fait revenir tout un tas de vieux joueurs. Genre j'avais fait revenir Fred Déhu qui était né à Toulon et qui avait voulu revenir.
Magnifique.
J'avais un formidable attaquant, Mesut Bilici, un croate qui avait 34 ans et qui.
Bisous les Croates au fait.
Ouais, des trucs, je sais plus si c'était prêt, des trucs formidables. Probablement les parties de foot en salle de FIFA 98 aussi.
Ouais, incroyable.
FIFA 09 évidemment, cette espèce d'ouverture d'un nouvel horizon, d'un truc complètement fou. Et puis les parties de PES, enfin en termes général, les changements de logo, les après-midi.
Ça, je suis d'accord. Mais les nuits entières, ouais, tu conservais ton fichier option.
Tu gardais ton fichier que t'avais sur ta carte. Tu partageais sur un Skyblog. Exactement. Tu pouvais aller chercher qui faisait le meilleur visage de. Alors, ça, c'est marrant parce que c'est resté. Maintenant, PES a un éditeur hyper cool pour intégrer les fichiers et tout.
Bah, ils ont bien compris que c'était un filon aussi.
C'est-à-dire qu'ils se sont dit clairement, nous, on n'a pas les thunes pour suivre. On va leur donner l'outil au moins. Voilà, on sait que vous le faites bien, on va vous donner les bons outils. Donc maintenant, ça se fait hyper simplement avec une clé USB. Tu mets clac et ça fait vraiment un résultat assez chouette. Et il continue d'y avoir une scène de, notamment sur PC, de faiseur de visage. Mais alors, du coup, maintenant, les mecs bossent avec Photoshop et tout, ça donne des trucs somptueux. Il y en a même qui ont été engagés chez Konami par la suite. donc voilà.
Moi, j'ai envie de parler d'un truc. J'ai envie de parler d'un,
c'est bien,
d'un
toi, truc. Vas-y, non, tu vas parler du podcast quand même, pas parler de ta vie perso.
si, ça va être totalement de ma vie perso. Okay. Dans PES 6, il existait un mode exceptionnel dans lequel on choisissait 4 clubs avant de faire un match avec un pote. On choisissait 4 clubs, il en choisissait 4 et on avait chacun au hasard.
Une espèce de draft là.
Voilà. Ah, exactement. Ouais. Et ça n'a plus existé depuis PES 6.
C'est vrai que c'est
génial.
Je
ne comprends pas, c'était incroyable. Je redonne la meilleure combinaison si jamais vous avez encore. Il faut prendre l'Inter Milan, il faut prendre le Real Madrid, il faut prendre Arsenal et il faut prendre Chelsea. Ou London Blue, voilà.
C'était Chelsea, je crois, il l'avait cette année.
Peut-être. Okay, voilà, c'était le meilleur truc du monde. Je faisais que des matchs comme ça. Et en fait, tu pouvais réappuyer.
Je crois qu'il y a, je veux pas dire de conneries, je crois qu'il y a un truc comme ça dans les derniers PES.
Ah ouais.
Avec.
Vous voyez la tête de Valentin à ce moment-là.
Je suis trop heureux.
Il me semble avec 4 équipes, ça me dit grave quelque chose. Okay. Recheck, il me semble que ça existe. Avec
c'est
pareil une sélection.
PES, c'est minable.
Non, mais il me semble que c'est. Si je dis une bêtise, tu ne le feras pas, voilà.
Il s'engage à te rembourser.
Ça marche. Bon, bah écoutez, merci.
On va te donner un an d'abonnement à Canard PC.
Ouais, merci à tous d'avoir été là. N'hésitez pas à aller acheter le Canard PC, le hors-série spécial jeu de foot, qui a plus de trucs que ce qu'on a dit aujourd'hui en une petite heure. Merci Yannick et merci Fabien d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci beaucoup Florian.
Merci pour l'invitation, ce fut un plaisir.
Merci à tous.
Et puis à la semaine prochaine pour le prochain podcast.
Ciao, ciao.
Salut.
Ciao.
C'est fini.